Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocats, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocats.com.
Au 104.7 Outaouais.
Vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé,
votre point de repère.
OK, on est de retour pour la chronique en droit du travail, puis mettons qu'on manquera pas de sujet cette semaine. Tout de suite, on va aller retrouver notre spécialiste en la matière, Maître Philippe Coderre. Salut Philippe.
Salut LP, bon retour.
Merci beaucoup. Écoute, on n'a pas le choix de commencer avec la ville de Gatineau. Là, t'en as parlé brièvement la semaine passée, mais l'histoire évolue. On sait maintenant que la directrice générale, Marie-Hélène Lajoie, a mis le maire Maxime Pedneau-Jobin et son cabinet en demeure pour atteinte à sa réputation et tentative de congédiement déguisé et abusif. Madame Lajoie semble dire que c'est basé sur des allégations sans faits concrets et sans évaluation de son rendement. Si c'est vrai, Philippe, c'est pas moi le spécialiste, mais il me semble que ça regarde pas bien pour monsieur le maire.
Ah, ben ça, faut avoir plus de faits. En ce moment, on a une version des faits, fait que je suis pas prêt à dire ça, là. Mais effectivement, normalement, quand on a un cadre important, là, donc un haut fonctionnaire ou un directeur général d'une grande entreprise, la chose qu'on fait tout le temps, c'est une évaluation de rendement. Puis pourquoi qu'on fait ça? Parce que ces dossiers-là, lorsqu'ils se retrouvent judiciarisés, ce sont des dossiers qui coûtent excessivement cher. Et ce sont des dossiers, autant en entreprise privée que dans le secteur public, qui sont quand même politiques, dans la mesure que c'est des gens qui relèvent d'un conseil d'administration, bien souvent, dans ce cas-ci, d'un conseil municipal.
Oui.
Alors, pour s'assurer que quand on décide de tirer la plug, en bon français, qu'on ait toutes les cartes là, dans notre jeu, c'est important de faire ces évaluations de rendement-là pour qu'il y ait des suivis qui soient faits et pour donner la chance aussi au gestionnaire d'améliorer sa conduite. Parce que des fois, on fait des choses dans la vie, on s'en rend pas compte. Et quand c'est adressé, ben le gestionnaire peut corriger peut-être sa méthode de travail.
Essayer de faire démissionner quelqu'un, ce qui semble être le cas ici, là, de ce qu'on en comprend, est-ce que c'est un congédiement déguisé aux yeux de la loi, Philippe?
Je dirais que ça va varier, donc ça dépend vraiment de la façon que c'est fait. C'est pas rare qu'un employeur va s'asseoir avec quelqu'un pour lui dire, écoute, ça fonctionne pas, là. Comment veux-tu qu'on procède? Tu veux-tu partir? Tu veux-tu rester? Si tu restes, voici mes conditions, puis sinon, je suis prêt à te payer tant. Donc ça voudrait pas dire que c'est un congédiement déguisé nécessairement. Mais si la rencontre a lieu d'une façon où l'employé n'a pas vraiment d'autre choix ou ne sent pas qu'elle a d'autres choix d'accepter l'une des deux options, oui, ça pourrait constituer ce qu'on appelle un congédiement par induction. C'est-à-dire, je ne modifie pas tes conditions de travail, je te n'appelle pas dehors, mais je te fais sentir que tu n'es plus la bienvenue dans l'entreprise ou dans ce cas-ci, dans la municipalité ou la ville. Et un employé pourrait sentir à ce moment-là qu'on la pousse vers la porte. Donc, ça peut être un argument, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est automatique. Donc, c'est important de comprendre ça, là. Faut vraiment qu'on regarde tous les faits pour savoir comment ça s'est fait, cette discussion-là, parce que c'est pas des discussions qui sont rares en droit du travail.
Ce qu'on entend, Philippe, ou ce que certains laissent entendre, c'est que le maire aurait voulu protéger certains directeurs de services qui seraient à bout de souffle, laissant entendre que Mme Lajoie leur mettrait peut-être un peu trop de pression. Si c'est le cas, comment aurait-il dû procéder dans un dossier comme ça?
Ben, je vais parler pour moi là sur comment je conseille mes clients normalement. Là, je ne sais pas ce qui a été fait ici. Mais normalement, dans ces dossiers-là, d'abord, il faut évaluer si on se retrouve en situation d'harcèlement psychologique. Parce que des fois, mettre beaucoup de pression sur quelqu'un, ça peut basculer dans l'harcèlement psychologique. Et à ce moment-là, les municipalités, les villes, les entreprises ont des politiques. Donc, on encourage les gens à porter plainte et on s'assure qu'une enquête soit faite par quelqu'un d'indépendant. Et surtout dans le cas d'un poste hautement politique comme celui de la directrice générale de la ville de Gatineau, je crois que dans un dossier de même, la façon de procéder, c'est de mandater un enquêteur externe, un peu comme on a vu dans le cas de Julie Payette, et on lui demande de faire une collecte de faits et de nous fournir un rapport. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait une apparence de politique dans le processus. Parce que si jamais ce dossier-là se ramasse devant le tribunal administratif du travail, eh bien, toute la démarche va être questionnée sur ce que la ville a fait ou pas fait. Et à ce moment-là, dès qu'il y a un peu de signe politique derrière ça,
ben oui, et il y a des rumeurs dans ce sens-là présentement. Là. Il y en a beaucoup qui disent, bon, Maude Marquis-Bissonnette qui va se présenter à la chefferie là, puis à la mairie éventuellement pour Action Gatineau, le même parti que M. le maire, ne s'entend pas bien avec Mme Lajoie. Donc, Maxime Pedneau-Jobin fait la job de bras à sa place avant qu'elle arrive possiblement en poste à la mairie de Gatineau. C'est ce qu'on entend présentement.
Et là, ça va être de voir si c'est fondé, ce qu'on entend, puis si ce l'était, ben le juge administratif, il va décortiquer toute la méthode, la démarche qui a été prise. Donc, c'est pour ça que, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait dans ces dossiers-là, normalement? Moi, j'aime bien quand c'est des postes qui sont très proches du politique, par exemple. C'est important, à mon avis, qu'il y ait les yeux de quelqu'un neutre et impartial qui vient s'immiscer dans le dossier un peu pour nous donner son appréciation des faits. Parce qu'une enquête complète, ça permet aux deux parties de donner leur version des faits. Puis après ça, on peut prendre une décision. Et dans ce cas-ci, ça aurait été le conseil municipal qui aurait eu le rapport d'enquête.
Ben, c'est ça, pour éclairer le conseil municipal dans une éventuelle décision aussi, là.
Exact. Donc, c'est pas obligatoire ce que je viens de dire comme démarche, mais je pense que c'est prudent d'agir comme ça dans un dossier qui peut être très houleux comme
celui-là. Oui, et qui risque de coûter cher en frais d'avocat.
Possiblement.
On n'a pas fini d'en parler. OK, revenons maintenant sur le Québec bashing du professeur Amir Attaran et la timide réaction de l'Université d'Ottawa. D'abord, quelles sont tes impressions, toi, Philippe?
Moi, j'ai été très frustré de cette situation-là. Moi, j'ai gradué à l'Université d'Ottawa. J'ai fait une publication, même Facebook, la semaine dernière, avant même que ce soit médiatisé. J'étais très frustré de ces propos parce que c'est une conduite là, qui perdure depuis plusieurs mois. Du moins, moi, c'est ce que j'ai conscience de. Là. Et de voir un peu le deux poids, deux mesures que l'Université d'Ottawa applique dans ces dossiers qui concernent le Québec, notamment, où les gens qui parlent français, alors que c'est une université qui est bilingue, c'est une université qui rayonne internationalement. Moi, j'ai trouvé ça décevant comme dossier, puis j'ai été déçu aussi de la réponse du recteur de l'Université d'Ottawa.
Le recteur qui laisse entendre que il peut pas agir si un employé s'exprime, un de ses professeurs s'exprime sur ses médias sociaux privés, là, Twitter, Facebook, peu importe. J'ai comme des gros doutes là-dessus, moi, Philippe. Est-ce que j'ai raison d'en avoir?
Tout à fait. Je suis absolument pas d'accord avec le recteur à cet effet-là. C'est une question de volonté d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on peut pas forcer une entreprise à sanctionner quelqu'un. Dans le sens que moi, si un employé me vole 50 000 $ et que je décide de pas le congédier, j'ai le droit. Et au même titre que quelqu'un qui s'exprime sur ses plateformes privées, si je juge qu'il n'a pas franchi la ligne, je suis pas obligé de le sanctionner. Alors ici, normalement, il y a un principe, on a déjà parlé, Louis-Philippe, l'obligation de loyauté. Donc, quand une entreprise voit que des employés font des déclarations, même si c'est sur leur plateforme privée, si ça se retrouve dans l'opinion publique et qu'on juge que ça porte atteinte à l'intérêt de mon entreprise, que ça vient complexifier mes opérations, que ça va à l'encontre des valeurs que j'essaie de diffuser, j'ai le droit d'agir contre ces employés-là. D'ailleurs, la plupart des entreprises ont des politiques sur l'utilisation des médias sociaux. Donc, les employeurs donnent aux employés leurs directives ou minimalement leurs attentes. Et à ma connaissance, je crois même que ce professeur-là, sur sa page Twitter, il s'est affilié à l'Université d'Ottawa. Donc, si on va consulter sa page, on voit qu'il travaille là. Alors, il y a quand même un lien entre les deux.
Un lien direct, ouais.
Ben oui, je pense pas que c'est un argument. Maintenant, je pense que c'est plus une question de est-ce que l'Université d'Ottawa trouve ça si grave que ça, ce qui a été dit?
Oui, mais il y en a qui essaient de laisser entendre que les professeurs sont dans une classe à part un peu là, avec la fameuse liberté académique. Est-ce que c'est un argument en cours, ça?
Je crois que ça peut être un argument qui va être avancé, mais dans ce cas-ci, on a vu que l'Université d'Ottawa traite la liberté académique différemment selon le contexte. On le voit à l'automne avec l'autre professeur qui, dans un contexte purement pédagogique, avait dit un mot qui a offusqué certains étudiants. Donc, si c'est l'argument qu'on soulève, ben l'université ici, à mon avis, se contredit un peu. Alors oui, ça peut être avancé. On peut dire au professeur, vous avez plus de liberté d'expression parce que, justement, vous avez une liberté académique, puis c'est important pour nous que vous disiez ce que vous avez en tête. Mais à ce moment-là, il faut être conséquent et uniforme dans la façon qu'on applique ça. Moi, je te pose la question, si ça avait été au lieu du Québec, n'importe quel autre groupe qui avait été visé par les propos du professeur, Est-ce que le recteur aurait réagi de la même façon?
Convaincu que non, moi aussi.
Effectivement, ouais. Effectivement.
OK. L'événement qui a conduit à la plus récente sortie du fameux professeur à Tarane est celui impliquant deux infirmières dans un CLSC de Joliette qui auraient émis des propos racistes contre une patiente autochtone, encore une fois. Les deux infirmières ont été congédiées là, pratiquement sur le champ, Philippe. Est-ce que c'était justifié?
Là, c'est une question de contexte. Je crois que ce qui est pertinent de retirer comme conclusion de cette histoire-là, c'est un peu la position du syndicat. Puis pourquoi je dis ça, c'est que le syndicat dans le dossier dénonce l'absence d'une enquête sérieuse. Ce qu'il dit essentiellement, c'est que on a eu vent des propos, on a rencontré les employés pendant quelques minutes, puis ensuite on a procédé au congédiement. Alors je peux pas me prononcer sur si le congédiement a été justifié, mais ce que je peux dire par contre, c'est que normalement pour mener un congédiement, il y a une enquête qui doit être quand même exhaustive, qui doit être faite.
Un peu plus sérieuse que ça, un peu plus poussée que ça.
Exactement. C'est ce que le syndicat va venir dire. Et le syndicat, lorsqu'il va plaider sa cause devant un arbitre, il va dire, ben écoutez, il faut tenir compte de l'ancienneté des infirmières, leur intention, leur remords, leur dossier disciplinaire. Est-ce que ça a été fait dans le dossier en cause? On ne le sait pas. Il faut aussi déterminer si est-ce que le geste est raciste ou elles ont fait preuve d'un manque de jugement flagrant. À ce moment-là, ça peut être deux sanctions différentes selon dans quelle boîte on se trouve. Alors, oui. C'est tous des arguments que le syndicat va dire, et je crois que ça rappelle aux employeurs, même quand la soupe est chaude, c'est important de faire des bonnes enquêtes, parce que par la suite, défendre votre décision, ça va être plus facile, même si on ne le sait pas, là, ça se peut très bien qu'il ait fait cette enquête-là, mais selon le syndicat, c'est pas ce qu'on entend.
Exactement. L'actualité va tellement vite, puis j'ai l'impression que les décideurs, là, les gens là, qui sont au pouvoir, là, que ce soit politique ou que ce soit, dans ce cas-ci, là, on parle du 6 de la région là, de Lanaudière, on dirait que des fois, on ne prend pas le temps de respirer par le nez un petit peu. T'sais, on aurait, je présume, Philippe, pu les suspendre le temps de l'enquête et ça aurait fait baisser la pression, puis au moins, tu n'as pas l'impression de faire une enquête bidon qui dure à peine quelques heures?
Exactement. C'est la façon que c'est fait. Normalement, on suspend la personne pour fin d'enquête. Évidemment, on ne peut pas suspendre quelqu'un pour 6 mois pour fin d'enquête. Là, on fait une enquête de quelques semaines. On peut même mandater, encore une fois, je ramène le principe, on peut mandater quelqu'un de l'externe si on veut une paire de yeux, le neutre et impartial dans le dossier. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être faites. Et souvent, je sais qu'il y a des employeurs qui se disent, c'est « je préfère congédier, vivre avec les conséquences si jamais un arbitre renverse la décision » que de vivre avec les conséquences d'une opinion publique défavorable qui pourrait nuire soit à mon entreprise ou dans ce cas-ci à l'image que les gens de l'externe pourraient avoir là, de l'appareil gouvernemental québécois. Ouais. Des fois, il y a des employeurs qui agissent de cette façon-là. Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais j'ai déjà vu ça dans ma pratique.
Merci beaucoup, Philippe. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se reparle évidemment la semaine prochaine.
Merci. Au revoir.